Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Donc, dans cette case, depuis le début de la semaine, on parle politique, on reçoit certains des chefs. D'autres ont décliné notre invitation. C'était le cas lundi de M. Duhaime. C'est le cas de M. Legault. Et non, je le précise, M. Legault n'a pas décliné parce que ces soirs de débat, on avait offert au premier ministre d'autres dates et il a décliné. Donc, on a fait Gabriel Nadeau-Dubois, Dominique Anglade. Demain, ce sera Paul Saint-Pierre Plamondon. Je vais donc faire avec M. Legault ce que j'ai fait avec M. Duhaime quand lui aussi a décliné la demande d'entrevue. On va analyser son bilan. Donc, écoutez, commençons avec la personnalité de M. Legault. Il y a une chose qui est claire, c'est que le courant passe entre les Québécois et son premier ministre. C'était vrai avant la pandémie. Et la pandémie, je dirais, a renforcé ce lien-là. On peut parler de la capacité comme M. Legault, de s'excuser. Et M. Legault parle vrai. Je vous dirais, cultive un style authentique qui est peut-être même pas un style là, dans l'authenticité. Il est comme ça. Et cette authenticité, par exemple, là, ça faisait cruellement défaut, souvenez-vous-en, à Philippe Couillard. Ça a fait que M. Couillard n'a jamais vraiment connecté avec les Québécois. Et on peut dire que M. Legault, ben, il plaît beaucoup aux électeurs francophones, plus âgés aussi, on le voit hein, dans les intentions de vote, très populaire chez les 50+. Les jeunes, eux, sont davantage et de plus en plus attirés par Québec solidaire et le Parti conservateur. Et je pense que c'est une évidence. M. Legault a renoué avec une forme de nationalisme québécois qui existait, je dirais, par défaut dans les années 70, 80, 90. Et pas juste chez les leaders souverainistes. Là. Même Robert Bourassa, un premier ministre libéral, était lui aussi à sa façon un nationaliste. Jean Charest n'était pas un nationaliste. Philippe Couillard, encore moins. Je pense que les Québécois avaient soif de se retrouver dans un premier ministre nationaliste comme ça, et on a retrouvé ça avec M. Legault. Et François Legault ne s'excuse pas d'être un nationaliste québécois. Il affirme la différence québécoise. On peut penser, par exemple, à la loi 21 sur la laïcité, à la loi 96 qui est le prolongement de la loi 101. Il parle, M. Legault, souvent de la fierté d'être Québécois, tout en promettant aussi pas de référendum. Ben ça plaît aux Québécois qui ont été traumatisés par les aventures référendaires. Il faut parler aussi, je pense, du style François Legault, parce que ça fait aussi un peu partie de la forme, du fond. René Lévesque, Robert Bourassa, Lucien Bouchard incarnaient, on peut le dire, je pense, là, une certaine hauteur dans la fonction de premier ministre. Leur façon d'être premier ministre, ça venait avec un certain décorum, avec un respect des individus, des adversaires, des institutions. Chez François Legault, mettons que c'est une approche un peu différente. On va écouter quelques coups de gueule de notre premier ministre ces derniers mois. À la députée Christine Labrie, qu'il questionnait sur une question, un enjeu très important, les places en garderie. Monsieur Legault a répondu ceci.
Savez-vous quoi? Moi, ça me surprend pas qu'ils abandonnent ces femmes-là. Ce qui me surprend, c'est qu'ils continuent de dire qu'ils sont féministes.
Mère Teresa.
Il a traité de Mère Teresa et c'était pas un compliment. Et de Dominique Anglade, ce vis-à-vis libéral, dès le début de la campagne, il a référé à la chef libérale en ces termes.
Cette madame peut-elle dire que l'économie du Québec va pas bien?
Et ça n'a pas été capté très, très bien par les micros de l'Assemblée nationale, mais il y a quelques mois, il a dit du député libéral Pierre Arcan qui s'est levé pour poser une question, comme les parlementaires le font à l'Assemblée nationale, poser une question au gouvernement. Ben, M. Legault a dit, il n'est pas mort, lui. Il a aussi bloqué un journaliste de la Gazette sur Twitter. Un journaliste, pas un troll, journaliste fatigant avec ses scoops et ses questions, du nom de Aaron Durfell. Bref, M. Legault est souvent mesquin et il a lui-même reconnu qu'il doit respirer par le nez. C'est en juin 2021, on va l'écouter.
Ben, mon défi principal, c'est de continuer à écouter les Québécois, peut-être moins me fâcher comme je l'ai fait la semaine passée. Je veux rester zen.
Un an plus tard, on peut pas dire que le PM est pas mal plus zen qu'en juin 2021. Le PM, c'est clair, il voit les contradicteurs, les adversaires comme des irritants. Sauf que c'est plate, mais ça fait partie de la démocratie aussi de se faire décoiffer quand on est premier ministre. Quand t'es PM, t'es pas juste un chef de parti. Et souvent, moi j'ai trouvé depuis 4 ans que François Legault était d'abord le chef de la CAQ et ensuite, après, le premier ministre du Québec. Souvent incapable de s'élever au-dessus de la mêlée partisane. Le style Legault à son meilleur, je pense que c'est celui du début de la pandémie. Quand il fallait rassembler, quand il fallait rassurer. Moi, j'avais été impressionné par le François Legault de la première partie de la pandémie. Disons, le printemps 2020, l'été 2020. On va écouter le 23 mars 2020, François Legault qui annonce aux Québécois, on va s'en souvenir, sa décision de tout fermer ou presque.
Donc, aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au 13 avril. Donc, on a une situation où, dans les faits, le Québec va être sur pause pendant 3 semaines.
Il fallait être courageux politiquement pour tout fermer. Il y a des politiciens ailleurs qui ont décidé de pas le faire. Moi, je l'ai dit à l'époque, je le pense encore, même si on a plusieurs autres informations sur la gestion de la pandémie. À l'époque, avec les infos qu'ils avaient au gouvernement, ça a été une bonne décision. On peut blâmer le gouvernement pour ce qui s'est passé dans les CHSLD, oui, dans les résidences pour personnes âgées. Mais franchement, quand on regarde ce qui s'est fait ailleurs, aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe, la même erreur a été faite, celle de vraiment protéger les hôpitaux et d'oublier un peu beaucoup les endroits où habitaient les personnes âgées. C'était un angle mort et pas juste au Québec. On peut mettre au bilan positif de M. Legault la sélection de Christian Dubé à la santé et aussi le succès de la campagne de vaccination. On l'oublie, ça a été géré de façon chaotique dans plusieurs pays du monde. Ici, pour une fois, le système de santé a livré. On a pu vacciner les Québécois en masse et les Québécois ont tendu le bras en masse grâce aussi à plein de mesures qui les ont incités à se faire vacciner. On les a, des fois, ça a été la carotte. On a fait appel au sens civique des gens, à leur nécessité de se protéger eux-mêmes, leurs proches. Des fois, il y a eu un peu aussi l'apparence d'un bâton avec le passeport vaccinal, par exemple. Mais on peut dire que le gouvernement a fait preuve de leadership en matière de vaccination. Ça a permis d'éviter un désastre encore plus grand des hôpitaux. Et ça a permis aussi d'avoir une surmortalité plus basse qu'ailleurs. Mais personnellement, il y a plein d'aspects de la gestion de la pandémie par M. Legault et son équipe qui m'ont irrité. J'ai trouvé que le PM lui-même est souvent tombé, par exemple, dans Pensée magique. Un exemple, décembre 2021. La planète au complet, les agences de santé publique un peu partout dans le monde sont claires. Omicron s'en vient et ça va fesser. Mais pendant que tout le monde disait que ça allait fesser un peu partout, en Europe, aux États-Unis, on se préparait, ben, M. Legault, lui, décembre 2021, au début, là, il rêvait encore à voix haute de party de Noël à 20 personnes. Pour moi, c'était un énorme raté. Psychologiquement, il aurait dû nous préparer à ce moment-là à peut-être reviser nos plans pour Noël. Non, il faisait des prières au petit Jésus, puis il pensait que ça allait avoir lieu. Ça n'a pas eu lieu. Et quand ça n'a pas eu lieu, ben on est tous tombés de très, très haut. Il y a un autre raté absolu de la pandémie, pour moi, c'est la question des aérosols comme vecteur de transmission, notamment dans les écoles. Je peux pas comprendre que dans ce Québec qui a bâti des barrages qui font notre renommée dans le monde entier, on est un peuple de patenteux puis d'ingénieurs, mais on n'a jamais trouvé une solution en 2 ans et demi pour ventiler nos écoles comme du monde. On va écouter Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, sur les ondes de LCN avec Paul Larocque tout récemment.
La ventilation dans les écoles, vous, est-ce que vous convenez à posteriori, au fond, que vous l'avez échappé, celle-là, pour toutes sortes de raisons, là, mais
ça a été surfait, ça. Surfait, ça a été gonflé à l'hélium, si on veut parler de gaz dans l'air.
Ça n'a pas été surfait. Ça n'a pas été gonflé à l'hélium. C'est un problème qui a été mal géré par le gouvernement, par le ministère, géré par Jean-François Roberge. Jean-François Roberge, juste le rappeler, là, il a fait dire publiquement des choses à la santé publique québécoise. Il a dit « la santé publique nous a dit ci pis ça ». Après ça, la santé publique était tellement tannée d'être instrumentalisée, elle qui est très, très docile, faut le dire, qu'elle a laissé couler que c'est pas vrai. Roberge disait pas la vérité. Roberge a été pogné dans un mensonge là-dessus. Il n'a pas dit la vérité sur la ventilation. Et le PM l'a quand même gardé en poste. S'il était venu ici, ben j'aurais demandé à M. Legault si le fait que M. Roberge a créé la CAQ dans le salon de M. Legault, est-ce que ça y donne un statut spécial à ses yeux? Un autre qui est resté en poste, je pense, beaucoup trop longtemps grâce au premier ministre, c'est Horacio Arruda. Docteur Arruda a raté le bateau. Il a été en retard sur la science de façon gênante à plein de reprises. D'abord, quand il a douté publiquement de l'efficacité des masques, quand il a fallu en mettre, il y a plein de gens qui voulaient pas en mettre qui disaient « Hey, Arruda nous a dit que c'était pas efficace. » Quand il a mis toute sa foi au printemps 2020 dans l'immunité collective par la contamination, alors que c'était déjà au printemps 2020 une idée dangereuse et discréditée. Quand Dr Arruda aussi a traité des médecins spécialistes dans les épidémies, ce qu'il n'est pas, de gérant d'estrade. Dr Arruda s'est souvent mêlé aussi dans des explications compliquées, confuses, sans queue ni tête, et le PM l'a gardé très, très longtemps en poste malgré tout ça. Écoutez, François Legault n'a pas juste des défauts, il est à 40% dans les sondages. C'est lui qui, présentement, a une pluralité d'intentions de vote. Avec quatre partis d'opposition divisés, c'est un wet dream politique, cette campagne électorale, présentement, pour lui. Là, c'est idéal. Je vois pas, depuis une génération, un autre PM qui a tenté une réélection avec un ciel politique aussi bleu, aussi dépourvu de nuages, puis il est quand même fâché, fâché. Écoutez, je repense à d'autres premiers ministres du passé, puis c'est vrai que la nostalgie donne toujours, disons, une image un peu plus belle peut-être du passé, de ce qu'on voit dans le rétroviseur. Mais on va parler d'héritage, OK? Monsieur Lévesque voulait un pays. Il l'a pas eu, mais il a lancé plein de réformes, des petites révolutions sur le financement électoral, sur la protection du caractère français du Québec, protection du territoire agricole aussi, la fin du Far West dans l'indemnisation des accidentés de la route. Ça, on n'a pas idée à quel point ça a mis un terme à beaucoup de souffrances humaines des années 70. Monsieur Bourassa, les grands barrages, ça nous a rendus plus riches, à plein d'égards. C'est une énergie propre aussi. La solution facile des années 70, ça aurait pu être le nucléaire. Mais M. Bourassa a fait le pari de l'hydroélectricité et c'est un bel héritage. Je pense aussi au réseau de CPE, créé sous l'impulsion de Mme Marois dans le gouvernement Bouchard. Ça a permis d'enrichir le Québec parce que des milliers de femmes ont pu accéder plus facilement au marché du travail. Jean Charest, je vois absolument rien. Désolé, c'est un gouvernement d'affairistes qu'a dirigé Jean Charest. À part un talent pour garder le pouvoir, un talent pour récompenser les militants libéraux et les donateurs, par exemple avec des permis de garderie privée, mais je vois pas ce que les années du gouvernement Charest ont laissé comme bel héritage. Il y a des PM qui laissent beaucoup, il y a des PM qui laissent pas grand-chose. Ce qui me ramène à François Legault, si M. Legault décidait d'aller planter des tomates demain matin, ce serait quoi son héritage à François Legault? La fierté, c'est un concept un peu difficile à cerner quand même. C'est quoi le réseau de CPE de François Legault? Ça va être quoi la loi 101 de M. Legault? Les barrages hydroélectriques de M. Legault? Je le sais pas. Et je vois pas non plus. La loi 21, la loi sur la laïcité. Écoutez, désolé, là, je trouve que ça aura jamais le même impact, la même importance que la loi 101 de 1977, dont on peut et dont on pouvait à l'époque statistiquement évaluer les bienfaits pour la pérennité du français. Et là, je vois aller M. Legault en campagne et le slogan, c'est quoi? C'est continuons. OK, mais continuons quoi? Avec son immense capital politique, il veut faire quoi, François Legault? Depuis le début de la campagne, j'ai pas trouvé réponse à cette question-là. Je vois pas de réponse à cette question-là dans son premier mandat. Il est obsédé par l'idée, par exemple, de rendre les Québécois aussi riches que les Ontariens. OK, mais c'est-tu vraiment un projet de société? On va être plus riches, mais tout va coûter plus cher aussi. C'est pas comme si l'écart non plus avec les voisins ontariens, c'était le jour puis la nuit. On n'est pas le tiers-monde au Québec. Sur plusieurs enjeux majeurs, M. Legault est absent. Je trouve qu'il met pas son poids politique dans la balance. Les fusillades à Montréal, la crise du logement. Il refuse même de parler de crise du logement. Mais François Legault, sur ces enjeux-là, il fait et il dit le minimum. Et pour ce qui est de la crise climatique, ben tout est résumé dans les propos d'un de ses candidats vedettes, Bernard Drinville, qu'on va écouter.
Ah ouais? Viens donc placer en ligne le matin ou le soir. Tu me le diras après ça que j'en ai pas besoin de troisième lien. C'est des véhicules électriques qui vont le prendre de plus en plus. Fait que lâchez-moi avec les GES.
Lâchez-moi avec les GES. C'est pas mal l'approche climatique de M. Legault. Donc, je reviens à ça. Ça va être quoi l'héritage de notre premier ministre? Il y a le troisième lien, justement. Et s'il était venu en studio, j'irais demander, écoutez, un tunnel Québec-Lévis, c'est-tu un héritage digne d'un premier ministre? Je vais vous donner un exemple. Le tunnel La Fontaine à Montréal, là, c'est-tu un héritage politique important? Si vous pensez que oui, là, dites-moi spontanément, ça allait sur Google, c'était qui le premier ministre quand ça a été inauguré, ce lien-là, entre Montréal et la Rive-Sud? C'est ça. Je vais conclure sur le style, là où le style Legault, la forme rencontre le fond des choses. Parce que des fois, la forme, c'est un peu le fond des choses. Quand il refuse d'aller faire un débat chez les anglophones, c'est assez clair que M. Legault envoie le message que les Anglos comptent pas. Même si les Anglos, ce sont des Québécois. Si Parizeau et Lévesque étaient capables d'aller débattre chez les Anglos, M. Legault devrait le faire. Quand il casse du sucre sur le dos des gens de Montréal en perpétuant que les Montréalais regardent de haut les gens de Québec, ben M. Legault, il se vautre dans les mêmes guéguerres très chères au cœur de certains animateurs de radio poubelle. C'est plate, mais je m'attends à plus de mon premier ministre que d'un animateur de Radio Liberté. Et il y a aussi ses propos sur l'immigration, le lien entre l'immigration et la violence. On va l'écouter.
Les Québécois sont pacifiques. Hein? Ils n'aiment pas la chicane, ils n'aiment pas les extrémistes, ils n'aiment pas la violence. Donc, il faut s'assurer qu'on garde ça comme c'est là actuellement.
Quand le PM dit ça, il encourage les Québécois qui ont peur des immigrants, et il y a toutes sortes de peurs des immigrants, à pas mettre leurs préjugés de côté. Il n'en appelle pas à nos meilleurs sentiments. Et M. Legault parle toujours de l'immigration comme si c'était juste un problème. Et si j'avais pu l'interviewer, ben j'aurais demandé à M. Legault de me parler d'une personne issue de l'immigration. Une personne qu'il aurait rencontrée pendant son mandat de PM, dont l'histoire l'a touché. Et on le sait qu'il y en a des histoires touchantes. M.C. Gilles a raconté il y a quelques jours à ce micro qui est allé à la rencontre d'immigrants de la Mauricie. Et c'est une rencontre qui l'a bouleversé. Si vous habitez dans un endroit où il y a des immigrants puis que vous leur parlez, vous le savez, ce sont des histoires humaines incroyables. Ça peut être un enjeu qui a des difficultés, pour lequel on a des difficultés à régler. L'immigration, le chômage, oui, il y a des difficultés d'intégration, mais il y a des histoires incroyables. Sauf que, quand M. Legault parle d'immigration, il est toujours en train de nous parler de problèmes. Et quand François Legault aussi décrète que les problèmes sont réglés à l'hôpital de Joliette où Joyce Echaquan est morte sous les insultes, ben il crée une chicane inutile, stérile, gênante avec les Atikamekw de Manawan. Puis ça finit en guerre de mots avec le veuf de Mme Echaquan, guerre de mots qui est pas chic. Même dans crise d'Oka en 1990, si on est pour parler d'ancien premier ministre, Robert Bourassa a largement évité ce piège-là, le piège des excès de langage, de la banalisation. Bref, s'il était venu au micro, je lui aurais demandé à M. Legault, pourquoi vous n'êtes pas plus zen? Pourquoi si souvent, alors que tout va bien pour vous, pourquoi vous êtes si souvent méchamment partisan?
Je veux rester zen.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp.
Génial est de retour pour une 13e saison avec plein de nouveautés et d'expériences étonnantes.
Pour aller aux toilettes, c'est le fun d'avoir la lecture.
En cette année de la 2000e expérience, toute l'équipe est à pied d'œuvre pour dénicher les sujets les plus passionnants et ce ne sont pas les idées qui manquent.
Trop fort encore!
Ah, Catherine, j'aime toujours ça parler avec Martin Carly, comme on le fait chaque vendredi, et j'aime encore plus lui parler le jeudi quand on n'a pas à le payer.
Ben oui, c'est une plug gratuite aujourd'hui qu'il nous fait. Bonjour, Martin!
Salut!
Je pensais que t'allais raccrocher.
Non, mais je vais peut-être charger pour l'électrolyse, mais bon...
Martin, vous présentez ce soir à Génial la 2000e expérience de l'émission. C'est toi qui crée habituellement chaque expérience, c'est toi qui conçoit, qui trouve les idées. Après 13 saisons, comment fais-tu pour te renouveler?
Ah, Ben, il y a différentes façons de faire ça, en fait. Je dirais qu'avec le temps, ben c'est sûr qu'on connaît tellement bien l'émission que honnêtement, des fois j'entends une phrase à la télé ou à la radio, puis immédiatement ça déclenche une idée d'expérience, ce que j'avais peut-être pas nécessairement au début de l'histoire de l'émission. Donc j'ai la chance quand même d'évoluer dans un domaine, les sciences qui évoluent constamment. On le voit d'ailleurs ensemble les vendredis quand je viens vous présenter l'actualité scientifique. Donc honnêtement, le renouvellement est pas si dur que ça. Par contre, la clé, je dirais, c'est de noter toutes les idées qui nous passent par la tête. Des idées, on en a tous, on est tous créatifs, mais vraiment, je pense que ce qui fait la différence, c'est de pas s'imaginer que quand une idée est bonne, on l'oubliera pas. C'est de noter tout ce qui nous passe par la tête. C'est vraiment ça la clé.
Puis là, la 2000e expérience, est-ce qu'elle va être plus spectaculaire que les autres?
Ben, elle va être très, très spéciale, ça je vous le garantis. Je vous donne quand même, je vous donnerai pas la question qu'on va poser, mais je vous donne une bonne idée de ce qui va se passer. Pour la 2000e expérience, on a eu la chance d'accueillir en studio un robot qui est viral un peu partout sur la planète, sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. C'est le fameux robot chien qui s'appelle Spot de la compagnie Boston Dynamics, un robot absolument incroyable qui peut ouvrir des portes seul, qui monte dans des ascenseurs, qui fait toutes sortes de choses. Et ce soir, vraiment, on lui a construit un décor avec des escaliers, une porte et tout ça. Il vient me porter une balle, il s'en va écouter les équipes qui réfléchissent pendant qu'on leur a posé la question. C'est vraiment un robot absolument hallucinant, puis ce qui est cool là-dedans, puis je pense le bon mot, Steph l'avait quand on a présenté ça, c'est de dire qu'il y a 13 ans quand Génial a commencé, ce robot-là n'existait même pas. Et là maintenant, 13 ans plus tard, on peut montrer dans le fond là où on est rendu lorsqu'on parle de robotique. C'est absolument, c'est hallucinant comme robot.
C'est tellement hallucinant qu'on m'informe qu'un des robots de, comment ça s'appelle, Boston Robotics, c'est ça?
Boston Dynamics, la compagnie, oui.
OK, oui, il va pouvoir te remplacer vendredi pour faire la chronique
scientifique. Ben, écoute, tout ça se peut. C'est sûr que le but des robots, éventuellement, c'est de faire des tâches à notre place. Là, on peut penser, évidemment, de tâches répétitives. On peut penser à des tâches pour lesquelles notre sécurité est en danger. On peut penser aux robots des mineurs, par exemple, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un robot qui va finir par expliquer la science à la TV? Ben, tout ça peut. Pourquoi pas?
Ben, il pourrait participer au débat des chefs ce soir, parce qu'entre ça, puis les 5 candidats, ça changera pas grand-chose.
Ouh! Ouais. faut que tu répondes à ça? Ou ben
réponds,
non,
pas. Réponds pas.
Elle, c'est une question.
Parfait.
Martin, dans le début, quand tu as commencé ça, pensais-tu que ton revenu principal allait devenir la télé? Tu pensais-tu que ça allait durer tout ce temps-là? Parce que là, t'es devenu une vedette. C'était pas prévu dans ton CV, là.
Ben, écoute, moi, avant de faire Génial, ben, j'ai fait, c'est souvent le passage obligé, hein. Moi, j'étais chroniqueur dans différentes émissions. J'ai été chroniqueur pendant 2 ans à l'émission Caféine avec Gildon Roy, avec Rick Nolin.
C'était mémorable, on s'en souvient encore.
Ah, ben, je sais pas si c'est de l'ironie ou quoi.
Oui, non, ça fait longtemps. Oui.
Ah, ben oui, non, mais quand même, c'est tout à fait vrai. Et c'est sûr que de là, de se dire, OK, oui, mais là, on va animer une émission comme ça, qui est un jeu scientifique en heure de grande écoute pendant plus de 13 ans. C'est sûr que c'est pas un, je pouvais pas parier là-dessus au départ, bien entendu. Mais le concept est tellement le fun. Je veux dire, on s'amuse, on fait des choses qu'on m'a interdit toute ma vie de faire, finalement.
Comme quoi?
Ben, comme des explosions. À chaque année, on me dit, puis qu'est-ce qu'on fait exploser cette année? Comme, ben, écoute, on pourrait faire exploser telle affaire ou telle affaire, tu sais. On me demande de trouver des moyens de faire des choses que toute ma vie, on m'a dit de pas faire. Je trouve ça absolument jouissif. C'est sûr que j'ai énormément de liberté. Et je travaille avec une équipe qui est absolument fantastique, qui prend toutes ces idées-là et qui les rend 10 fois meilleures après. C'est ça qui est complètement fou. Tu sais, en ce moment même, je suis dans une mise en scène. Là, donc, on est en train de placer des expériences qu'on va tourner la semaine prochaine. Puis, c'est la première fois que je vois les accessoires, tu sais, comment ces expériences-là vont exister. Puis, je suis comme toujours vraiment... vraiment flabbergasté, là, pour prendre l'anglicisme là, de ce que ça donne.
Comme toute bonne émission de télévision, vous avez des budgets, là, j'imagine que c'est pas illimité, là, les pétards?
Non.
OK.
Ben, c'est sûr qu'on a un budget, on est limité, bien entendu, mais tu sais, la beauté d'une émission qui dure, c'est que souvent, Il y a du monde qui t'aime au point de t'inviter à faire des choses que toi-même, tu pensais pas que c'était possible de faire certaines choses. Par exemple, l'an dernier, on est allé faire un tournage où on était capable d'illustrer avec un véritable avion qu'au bout des ailes des avions se font des vortex d'air qui font que si les avions suivent de trop près, l'avion en arrière, il va crasher. Là, il y a eu des catastrophes aériennes parce que des avions suivaient de trop près. Mais nous, on a eu la chance parce que des gens tripaient sur l'émission puis qu'il y avait un avion. Ils disaient, hey, si vous voulez faire une expérience avec un avion, on serait partant, on va lever la main, on va faire quelque chose. Ce qui est absolument inédit, je veux dire, dans un quiz comme ça, quotidien, de se dire, on va aller tourner une expérience avec un avion qui passe dans de la fumée colorée pour voir les vortex de fumée qui se font au bout des ailes. Tu sais, ça, on est vraiment chanceux de pouvoir compter sur des gens qui nous aiment puis qui nous invitent à venir faire des trucs avec eux. C'est vraiment fou.
Il y a un volet éducatif dans votre émission aussi. Est-ce qu'il y a des profs de sciences qui demandent à leurs étudiants de vous écouter? Et deuxième question, est-ce que tu as rencontré des jeunes qui sont allés en sciences avec le temps? Il est peut-être même arrivé des ingénieurs parce qu'ils vous ont regardé, ils ont eu la piqûre.
Mais la réponse à ça, dans les deux cas, c'est oui. Puis ça, honnêtement, c'est le plus beau compliment, c'est le plus beau retour qu'on a sur le travail qu'on fait depuis 13 ans. Oui, il y a des profs qui nous disent, ben nous, on donne l'écoute de génial en devoir à nos élèves. Puis après ça, ben on refait des expériences en classe, on refait des expériences à la maison. C'est la raison pour laquelle, à chaque semaine de diffusion, je m'arrange toujours pour qu'il y ait des expériences que les gens peuvent refaire à l'école ou à la maison. Il faut toujours qu'il y en ait de ça, qu'on ne perde pas ce contact-là avec des choses que les gens peuvent faire à la maison. Ça, c'est un. Puis, ta deuxième question, ben depuis quelques années maintenant, le nombre de fois que des parents viennent me voir, quand on a la chance d'aller dans des événements publics, là, ce qui malheureusement a été moins le cas pendant la pandémie, mais tu sais, quand on fait des festivals comme le Festival Eureka au Vieux-Port, des choses comme ça, le nombre de parents qui sont venus me voir en disant, tu sais, moi, mon enfant, il a commencé à triper ses sciences en regardant Génial, puis maintenant, il est à l'ETS ou il est à Polytechnique ou ainsi de suite. Hey. Sérieux, c'est toujours touchant et émouvant de voir ce genre d'impact-là qu'on peut avoir parce que, tu sais, la science, je trouve qu'il n'y en a jamais assez, puis plus il y en a, plus la culture scientifique va être élevée dans la société dans laquelle on vit, puis plus on va susciter la relève, finalement, dont on a besoin pour toujours être aux avant-postes lorsqu'on parle de recherche scientifique.
Martin, on peut-tu te garder pour après la pause? Je vais te parler d'hydrogène.
Ben c'est sûr. C'est
possible, parfait.
En plus, je faisais partie de ceux qui t'ont texté hier pour t'expliquer un peu l'hydrogène et l'électrolyse. Ça m'a plaisir de t'expliquer des voix.
Je pense que si tu sautes la pause, tu deviens facturable.
Ah! OK, on te garde. Merci,
alors,
Martin, d'être là.
Avec plaisir.
C'est ce soir génial. Regardez ça à la télévision, 2000e expérience.
15h48. Le Québec maintenant. Électrolyse est une femme comme une autre. C'est aussi une méthode de séparation des atomes dans l'eau pour faire de l'hydrogène. Salut, Martin.
Salut.
On a décidé de garder Martin et Carly, qu'on a invité avant la pause pour parler de la 2000e de expérience de Génial. L'hydrogène en tant que carburant, il me semble que ça fait 20 ans qu'on dit que c'est l'avenir. On est dans l'avenir de l'époque où on disait que c'était l'avenir.
Ben, en fait, l'hydrogène, l'avantage qu'on a avec l'hydrogène, un, c'est que c'est un carburant qui peut fournir beaucoup d'énergie, donc être capable de faire avancer des véhicules, par exemple. Et l'avantage, c'est que l'hydrogène, quand on l'utilise comme carburant, c'est qu'essentiellement, on le consomme en compagnie d'oxygène. Donc, ça va redonner de l'eau après, parce que essentiellement, tu utilises l'oxygène plus de l'hydrogène. Donc, tu combines ça, tu obtiens de l'eau après. Donc, le côté vert de l'hydrogène, il est là, d'être capable d'obtenir quelque chose qui n'est pas polluant du tout. Au bout du processus de l'utilisation de ce carburant-là, tu vas obtenir de l'eau.
Mais c'est énergivore.
C'est vraiment quelque chose qui...
Martin, ça demeure énergivore, le transformer.
Oui, ben c'est ça, exactement. C'est que là, quand on regarde par la suite comment on le produit, l'hydrogène, pour être capable d'en faire assez, pour être capable de produire là, ce qu'il nous faut pour faire avancer X nombre de véhicules, ben là, on parle, par exemple, de la technique de l'électrolyse. L'électrolyse, c'est une des techniques là, qui les plus utilisées pour fabriquer de l'hydrogène gazeux qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Mais le nom, il dit, hein, électrolyse. Donc, ça veut dire qu'on va... Lyse, ça veut dire couper. puis électro avec de l'électricité. Donc, on va couper des molécules d'eau avec de l'électricité, mais ça, ça veut donc dire que ça va t'en prendre de l'électricité pour réussir à les couper. Couper quoi? Ben, essentiellement, on coupe les liens chimiques entre les atomes d'hydrogène puis d'oxygène, parce que je rappelle qu'une molécule d'eau, c'est H2O, donc deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. On veut couper les liens qui unissent les atomes d'hydrogène et d'oxygène dans la molécule d'eau, puis permettre aux hydrogènes libérés de s'assembler, former de l'hydrogène gazeux, puis à l'oxygène qui est libéré de former de l'oxygène gazeux. Donc, c'est ça la base du principe, mais effectivement, ça prend de l'énergie. Le fameux courant électrique va venir couper ces liens-là, et c'est là, là finalement, que tu peux voir à quel point t'as un bénéfice de produire de l'hydrogène pour par la suite faire bouger des autoroutes.
Bon, mais écoute, si Mme Anglade explique ça ce soir, ça se peut que les gens zappent. Merci, Martin.
Ça fait plaisir. Attention à vous, puis on se reparle demain.
Bye. Je me tourne maintenant vers mon ami et mon collègue Félix Séguin, que vous connaissez bien, journaliste d'enquête sur toutes les plateformes de TVA, Journal de Montréal, Québécois Média et animateur aussi de JE. Salut Félix!
Salut, l'homme sandwich.
L'homme sandwich. Écoute, entre pieuvres, hein, on se connaît. D'abord, avant de parler de ton nouveau livre qui s'intitule Narcos, je veux que tu nous parles des 30 ans de JE. C'est pas 30 ans pour toi à la barre de JE, mais c'est quand même une émission qui dure.
Ben oui, c'est la 30e saison. Je trouve ça merveilleux. Ben là, c'est moi qui l'anime, effectivement. Je l'ai pas toujours fait. On se rappelle que c'est Jocelyne Cazin, Gaétan Giroir qui font partie des fondateurs, des premiers journalistes qui l'ont animé. Puis il y a eu des maudits bons journalistes qui l'ont fait aussi après. Oui. Michel Jean, Paul Larocque, Marie-Christine Bergeron qui a quitté. En tout cas, bref, il y en a eu beaucoup. Donc, ça fait 30 ans, puis j'avais la réflexion que, tu sais, au Québec, pour 8 millions de personnes, d'avoir deux émissions d'enquête en affaires publiques, il y a ma vis-à-vis, Marie-Maude Denis, qui fait enquête à Radio-Canada. Nous, donc c'est la 30e saison, je trouve qu'on est assez chanceux.
Ben, sincèrement, c'est deux émissions qui font de l'enquête, puis je veux même pas dire que c'est différent, de l'enquête, c'est de l'enquête, puis tu l'as dit, pour une petite société, d'avoir deux émissions comme ça...
Francophone.
C'est formidable, ça vous... Est-ce que tu regardes les concurrents ou...
Toujours, parce que comme toi, je suis ultra compétitif, alors je verrais bien mal quelqu'un qui regarde pas ce que son compétiteur fait, puis qui essaie pas soit... de s'en inspirer ou même ou de compléter ce que quelqu'un fait parce que
mais vous êtes compétiteur monde, et pas
mais
parce que
compétiteur
vous êtes journaliste
et
les deux.
Pas puis vous allez le voir bientôt il y a des dossiers puis d'un côté comme de l'autre il y a des dossiers qui ont été que moi j'ai commencé il y a des années de ça puis que finalement il y a quelqu'un d'autre qui est un compétiteur qui a repris ça puis de mon côté aussi ça m'est arrivé de bref c'est un tout hein cette affaire
là c'est vendredi passé là le reportage sur les migrants
oui la route des migrants
c'était vraiment très bon.
C'est quoi, ça le mérite, parce que j'aime du journalisme d'enquête, c'est qu'il mérite d'être utile. Puis quand tu vois la petite place dans le fond qu'a pris le débat sur l'immigration, parce qu'au fond les sondages confirment qu'on n'est pas si intéressé par ça. Le Léger l'a confirmé, du moins. Quand je vois les gens en débattre, puis tu sais c'est hyper polarisant tout ça. Puis nous autres, je prendrais une phrase que quelqu'un nous a déjà dite qui voulait pas nous donné d'entrevue, puis on lui a dit, écoute, on veut absolument que tu nous parles. Il était dans une situation très particulière. Il a dit, walk in my shoes. En disant, porte mes souliers, là. Après ça, tu essaieras de m'en demander une entrevue. C'est pas à moi que c'est arrivé, mais c'est dans mon entourage. Donc, tu sais, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des souliers de migrants qu'on instrumentalise. On a vu la semaine passée ceux qui ont été littéralement shippés à Martha's Vineyard par DeSantis. Donc, tu sais, on a marché dans leurs souliers. On a été utiles. Je pense qu'on a été pertinents, puis c'est ça qu'on a amené au débat, that's it.
Oui, mais tu sais, des fois, on découvre des choses, je sais pas moi, des malversations.
Aussi.
Puis des fois, c'est faire comme vous avez fait aussi ce vendredi-là, la semaine passée, c'est de passer du temps avec des gens dont on parle, mais qu'on connaît pas, comme les migrants qui traversent à Rossam. Ben oui. C'est des histoires de vie incroyables.
Puis c'est tu sais, ultimement, on voit toujours le journalisme comme une affaire assez complexe, mais tu sais, le journalisme, surtout d'enquête, il y a une affaire là-dedans. Moi, il y a un mot qui représente ça, c'est accès. À partir du moment où tu te débrouilles pour avoir l'accès à quelque chose, être le plus proche de quelque chose. D'abord, c'est trippant. J'ai jamais l'impression de travailler, moi, quand je fais ça, quand je négocie un accès pour être le seul qui le voit avec mes yeux. Mais
La job est faite en partie. Ce que tu avais fait avec Christian Dubé, là.
Aussi.
C'était excellent, ça. C'était vraiment bon.
Ben, c'est bien gentil. Quand tu as fait, nous autres aussi, on a eu du soin à le faire.
Alors, voici ici ton Gémeaux en origine.
C'est le fun d'aller à la radio. Ben oui,
Félix Séguin, tu parles d'accès, d'avoir accès à des décideurs, mais accès aussi à des gens qui sont inconnus, mais qui ont un impact sur la vie. Dans ce nouveau livre, Narcos PQ, la route de la cocaïne de la Colombie à nos rues, c'est une plongée fascinante dans le trafic de la cocaïne, les protagonistes de la cocaïne, et t'as pu confesser littéralement un gros trafiquant de drogue qui se promène du Québec à la Colombie, Angel, c'est pas son vrai nom. Comment t'as eu accès à ce gars-là?
C'est une histoire, écoutez, pour vrai, c'est un peu débile. Ça fait un peu plus d'un an, au printemps 2021, chez moi, la journée est finie, puis je reçois un message sur WhatsApp. Donc, tu sais, je reçois pas souvent des messages sur WhatsApp, mais c'est encrypté, donc je comprends que quelqu'un a eu mon cellulaire, puis il dit, Google mon nom, puis tu m'appelleras. Alors moi, je Google son nom, et là, il y a un paquet d'affaires qui sort, puis là, je réalise que j'ai devant moi quelqu'un qui a un lien direct avec le cartel de Sinaloa, puis qui, je comprends qu'il me texte de la Colombie, puis il dit « Hey, ça te tente-tu de venir voir comment ça se passe? » Là, je dis « Écoute,
premier réflexe. »
Premier réflexe, parce que je me dis, ma tête dit oui, mais ma logique, ma gestion de risque dit hein, « Peut-être, on va voir. » Puis qui d'abord?
Puis ta blonde dit quoi?
Ben, ma blonde, j'en parle jamais au début de ces aventures-là.
Viens jouer! Hein?
et se dessine finalement une correspondance entre moi et lui, et les prochaines photos qu'il m'envoie, ça va être environ une demi-tonne de cocaïne, puis il dit ça, ce sont mes entrepôts. Dans la région, dans une région que je peux pas dévoiler, là, en Colombie, là, je dis, écoute, ça me tente de faire quelque chose.
Mais attends, tu t'es pas posé la question pourquoi lui veut t'en parler?
Ben,
qu'il veut t'instrumentaliser.
C'est là où je m'en allais. Ouais. En fait, la première chose que je me suis demandé, c'est est-ce que c'est un coup fourré? Est-ce que c'est un piège? T'sais, moi, je couvre le crime organisé beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me faire voyager là-bas où la vie ne vaut pas grand-chose, puis ça y est, je reviens plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider avec mon collègue et maintenant ami, Marc Sandreski, qui est un ancien policier de Montréal au crime organisé, qui est devenu journaliste. On va décider d'y aller à deux. Pas de caméra, rien, zéro. Un voyage exploratoire. Alors, on y va, on se présente là, puis on le rencontre. Puis on avait planifié plusieurs hôtels. On restait jamais dans le même hôtel. Un jour à un hôtel, l'autre jour dans l'autre chambre. On bougeait beaucoup dans la capitale, Bogota. Puis on le rencontre. Puis finalement, ça se passe très bien. Et on se rend compte que ce gars-là, d'abord, il nous compte pas. C'est pas des bobards. Il est celui qu'il prétend être. Et là, à un moment donné, il entre dans la chambre d'hôtel. Là, il met un 357 Magnum sur la table d'un côté, un Beretta sur l'autre. On dit d'abord, c'est un bon début. Ça veut dire que, tu sais, c'est quelqu'un qui, en fait, il y a peut-être les moyens de ses ambitions. Puis après ça, ça chemine. Puis on va y retourner une deuxième fois en mars dernier. Et là, on y va avec caméra et etc. Et on va documenter tout ce qui se passe du Québec à Montréal. En gros, là, ce gars-là, je vous donne un chiffre. La GRC en 2021, là, je vais vérifier mon chiffre, là, mais la GRC en 2021, là, je pense qu'ils n'ont pas saisi 2 tonnes de coke dans tout le Canada. Lui, il en exporte à lui seul 2 tonnes par année. Donc.
Ici. De la Colombie au Canada.
Puis c'est beaucoup. Et là, il nous dévoile un peu qu'il fait ça sous le nez de la police. On dit comment sous le nez de la police?
Et son avantage à lui, c'est quoi de faire ça?
Écoute.
De parler?
Il y a des choses que j'ai, dont je suis certain maintenant par rapport au monde criminel, c'est que c'est des gens qui sont vaniteux, puis dans leur système de valeurs, des fois, ils veulent essayer de s'amender. Mais ils peuvent pas s'amender. Il n'y a pas beaucoup de façons de s'amender quand tu vends de la coke. Tu sais, tu tues du monde. Les premiers kilos qu'il nous a montrés, c'était coupé au fentanyl. Puis il nous dit ça, c'est pour les prostituées de Bogota. Nous, quand il nous a dit ça, là, tu sais, moi, le cœur m'a levé dans le sens, ton business, au fond, c'est la mort, puis tout ça. Et de l'autre côté, tu veux t'amender en nous proposant de voir un peu comment ça se passe, puis faire une forme d'œuvre utile. C'est bien complexe, cette affaire-là. Il n'y a rien qui peut. Ces deux visions-là qui s'opposent sont difficiles à réconcilier pour un journaliste. Par contre, il y a une chose, il y a une raison pour laquelle on a fait ça, puis le livre, le Narcos PQ, c'est un travail de moi, Marc Sandreski, Éric Thibault et tous mes collègues du bureau d'enquête. Je les salue, je les remercie. C'est pour nous faire rendre compte de l'endroit où on vit. À Montréal, là, c'est la porte est grande, ouverte au trafic de coke. Il y a même de la coke qui entre ici pour revenir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est facile.
C'est plus facile de rentrer la coke ici à Montréal.
Pourquoi?
Ben oui, c'est très facile. Ben, en fait, il y a une gestion de risque du point de vue des trafiquants qui est de dire si j'écope d'une sentence, si je suis reconnu coupable, écope d'une sentence, etc., pour une large importation de cocaïne.
C'est pas les États-Unis.
Qu'est-ce qui va se passer?
Gestion du risque à ce niveau-là, c'est tu vas faire moins d'années de prison que si tu essaies de la passer par New York.
C'est sûr. Il y a ça. Il y a aussi le fait que les contrôles aux frontières, notamment au port de Montréal, sont plus faciles à déjouer, nous dit-on, et les contrôles aux aéroports aussi. Donc, vous allez apprendre dans ce livre-là que vous allez être assez surpris de voir par quelle compagnie aérienne entre la cocaïne à Montréal. Parce qu'ultimement, là, nous, quand on est revenu de Bogota à Montréal, là, lors de notre premier séjour, là, il y a fort à penser qu'on était assis dans la soute, sur une cargaison, tu sais, de dos.
Félix Séguin, ça me fascine que tu dises ça parce que, en même temps, dans les aéroports, il y a tout le théâtre de la sécurité.
Oui.
Je veux dire, tu reviens avec du foie gras de France, puis t'es quasiment traité comme un trafiquant de drogue. Et ce que tu me dis, c'est qu'en arrière, quand personne regarde, plus facile d'en rentrer.
Écoute, on appelle ça une porte. Hein? Le milieu criminel appelle ça une porte. Quand tu parles, puis la police comprend ce même terme-là. Là. Un criminel va dire, moi, j'ai une porte à Montréal. Une porte à Montréal, ce que ça veut dire, c'est que il y a soit un employé de la compagnie aérienne, soit un bagagiste, soit un autre qui s'occupe j'ai l'expression en anglais, le catering, mais du ravitaillement, là, des mets là, surgelés là, les avions.
La bouffe.
La nourriture.
Le ravitaillement. La nourriture. Qui transgresse, qui s'écarte de la loi puis qui est corrompu et dont le job, c'est d'aller chercher la marchandise quand elle arrive à Montréal, cachée dans des conteneurs d'alimentation, des conteneurs alimentaires, etc., ou d'autres types de conteneurs à bagages, et puis l'amener dans un endroit sûr pour que une tierce partie vienne apprendre. Puis il y a cette même porte-là à Bogota. Donc, présentement, les portes qui s'étaient fermées dans deux aéroports canadiens importants, Pearson à Toronto et Montréal-Trudeau à Québec, sont maintenant rouvertes. Donc, ça, tu sais, tout a recommencé.
Party.
La cocaïne, là, c'est le chemin de la cocaïne qu'on fait dans ce livre-là, Narcos PQ, c'est la reine des drogues, quand même.
Oui, ça l'est, et c'est la plus facile. Je te disais, c'est la moins coûteuse à produire. Parce que quand on est allé, on a compris.
Elle est facile à couper aussi.
Ben, elle est facile à couper, je te dirais. Mais là-bas, là, en fait, on est allé dans le fond de la jungle, vraiment dans ce qu'ils appellent les jardins. Les jardins, c'est où, bien sûr, pousse la feuille de coca qui va être raffinée ensuite en pâte, qui va être raffinée ensuite en poudre, qui va être ensuite, coupée avec plein d'affaires. Mais ultimement, là, ça coûte pas 1 000 $ faire un kilo de coca, là. Puis pendant la pandémie, ils se vendaient 75 ici. Puis ça coûte pas si cher que ça de transporter. Donc, c'est la reine des drogues pour ça. C'est la reine des drogues aussi depuis c'est la reine des drogues aussi depuis les années 80. Vous vous rappelez des campagnes de Reagan, entre autres.
Dites non à la drogue, etc.
C'était Nancy Reagan, je crois. Oui. Say no to drugs, dites non à la drogue. Cette grosse campagne qui a mené la DEA, donc l'Agence de répression des drogues américaine, à essayer de stopper le caractère foncièrement entrepreneurial des cartels colombiens.
Bon, on l'a vu dans toutes les séries.
Les séries. Ça a donné quoi? Puis ça, on en parle aussi dans le livre. Ça a donné quoi, tout ça?
Pas grand-chose.
Je te fais le parallèle avec ce que ça peut donner pour les armes à feu. On dirait qu'on est dans la même logique, présentement. C'est une remarque que je faisais. Quand on était au milieu des années 80, puis le Miami, puis le New York des années 80, puis le Studio 57, c'est brillait de tous ces feux à cause de la coke, tout le monde en consommait. Ben, les bien-pensants disaient que, écoute, faudrait quasiment mettre un policier dans chaque jet, dans chaque avion, dans chaque conteneur, dans tout ça, puis on a une politique de répression énorme des drogues. Puis avec peu de résultats, en fait, somme toute, sur le taux de criminalité, etc. On avait la réflexion l'autre fois, avec de bonnes sources policières, est-ce que c'est la même chose, pour exemple, les armes à feu, le débat des armes à feu présentement? Est-ce qu'on est en train de se dire, parce qu'on se le dit présentement, il faut absolument que les policiers à la frontière, soient à chaque frontière, soient plus présents. Je ne questionne pas le fait de combattre le fléau. On questionne le fait, par exemple, que ça donne réellement quelque chose de penser qu'on va être capable de réprimer le crime par arme à feu, avec quelque méthode que ce soit, parce que c'est une utopie de penser que ça, c'est efficace d'avoir du monde partout.
Mais Félix Séguin, je vais te poser la question, puis t'es journaliste d'enquête, t'es pas chef de police, t'es pas politicienne, mais je la pose à ces gens-là sur les armes. Est-ce que le dentifrice est sorti du tube, puis qu'on sera pas capable de le remettre dedans? Et c'est cette prolifération d'armes à feu, est-ce que c'est pas la nouvelle normalité?
Pas la réponse. Moi, et puis c'est pas une opinion que j'ai. En fait, c'est une opinion que j'aimais fondée sur des rencontres avec des sources criminelles et policières bien placées. La réponse à ta question, moi, je pense que c'est on ne pourra pas la remettre dans le tube. La réponse, donc, qui vient ensuite, c'est comment on va régler le problème? Est-ce que ça peut être un cycle aussi, ce que l'on vit présentement? C'est un cycle qui s'approche malheureusement. La dernière victime, là, c'était à côté du Centre Bell, c'est au centre-ville. Mm-hmm. Encore une fois, c'est dans des endroits extrêmement publics, c'est ce qui a changé beaucoup. Mais je vous rappelle que ce cycle-là, dans une moins grande magnitude, a existé au début des années 2000 aussi avec les gangs de rue. La criminalité, ce qu'on en dit, c'est que c'est cyclique. Est-ce que le cycle de la criminalité par arme à feu, la manière dont les gangs règlent leurs comptes très publiquement, va changer? Peut-être.
Félix, c'est toujours fascinant de
bon
te
vendeur,
lire.
Hein?
Fascinant de te lire, de te regarder et de t'écouter sur les nombreuses plateformes de Québécois. Merci.
Merci,
merci mon ami Félix Séguin d'être venu nous voir. Le livre s'intitule « Narcos PQ, la route de la cocaïne de la Colombie à nos rues ». Alors, dis donc le nom de tes camarades, je ne veux pas en oublier.
Marc Sandreski, ex-policier du SPVM devenu journaliste, Éric Thibault, tous les gens du bureau d'enquête qui ont participé, ils sont... As-tu du temps? Parce que là, il y en a 10. J'aimerais ça les nommer sérieusement.
D'occasion.
Claudia Bertion, Annabelle Blais, Pascal Dugas-Bourdon, Nicolas Brasseur, Dominique Cambron-Goulet, Jean-François Cloutier, Jean-Louis Fortin, Catherine Lamontagne, Philippe Langlois, Éric Yvalemé, Charles Mathieu, Jules Richer, Marc Sandreski, Marie-Christine Trottier, Andrea Valérie.
Disponible quand en librairie qu'on me demande sur la messagerie?
Right away.
Là?
Parfait.
Merci Félix Séguin, merci, toujours un plaisir.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Catherine MC, si je vous dis Raël, à quoi vous pensez?
Ben moi, la première image que j'ai eue, c'est quand il était là, tout le monde en parle avec sa toque, avec Chapelot qui l'avait secoué, mais évidemment la secte, les toches blanches, ouais.
L'amour libre.
L'amour ouais, libre.
J'ai couvert beaucoup de leurs manifestations. Écoute, on va lui donner le génie, et je mets d'immenses guillemets à génie. Seule secte qui avait réussi à joindre trois grandes doctrines de l'humanité, le sexe, la science et la spiritualité. Il a mis ça tout ensemble, puis il y a du monde qui a cru à ça.
Bien dit. Quand on parle de science, moi, autour de 1999-2000, j'avais été envoyé par le Journal de Montréal au Congrès américain parce que Raël passait devant les parlementaires des États-Unis pour expliquer que une de ses entreprises avait cloné un être humain. On venait de cloner quelques années avant une chèvre, si je me souviens bien. Là, ouais. Ils avaient, semble-t-il, disait-il, c'était complètement faux, cloné un humain, ils allaient nous le montrer. Ça n'a jamais été fait. Et mes collègues du Journal de Montréal, deux journalistes, Brigitte McCann et Chantal Poirier, avaient infiltré la gang de Raël pendant des mois et des mois. Ça avait été un reportage fascinant. Il y a un journaliste du Figaro en France qui s'appelle Étienne Jacob qui a aussi infiltré tout récemment les Raéliens qui sont encore actifs en France. Il est au bout du fil. Étienne Jacob, bonjour.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Étienne, d'abord, racontez-nous, dites-nous, d'où vient cet intérêt pour les Raéliens chez vous?
Ben, écoutez, en fait, moi, je suis un peu un spécialiste des sectes au sein du Figaro, et qui est notre journal. Et en fait, je fais une veille sur les sectes, et j'ai découvert qu'ils faisaient une université du bonheur. C'était une sorte de stage d'une semaine dans le centre de la France, dans un camping. Et moi, je me suis dit que j'allais y aller sous anonymat, parce pour essayer de recueillir les meilleurs témoignages et essayer de voir où ils en étaient, parce que j'étais surpris de voir qu'ils étaient encore actifs. Et effectivement, ils sont encore assez actifs et particulièrement en France.
Vous êtes allé là-bas. Est-ce que Raël lui-même y était?
Non, Raël n'y était pas. En revanche, il a fait une visioconférence et c'était un petit peu le point d'orgue de ce fameux stage parce que il était là et tout le monde était un petit peu béat de voir l'icône. C'est leur prophète, hein, donc faut imaginer ce que ce serait pour une religion conventionnelle. Donc c'est vrai que c'était un moment très fort et Raël effectivement nous a déversé son discours habituel qui a un petit peu dévié hein, avec le temps, mais qui est entre du complotisme, de l'antisystème, voilà, c'est quelque chose de quand même d'assez toxique.
Qu'est-ce qui vous a frappé chez les participants à ce stage d'éveil des Raéliens?
Eh bien, écoutez, pour ma part, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en tant que personne anonyme, j'étais comme un nouveau et ils ont été très chaleureux avec moi. Et en fait, cette chaleur humaine, c'est, ils vous touchent, ils vous font des câlins et en fait, c'est vraiment quelque chose qui peut vous entraîner dans un processus d'emprise mentale. Parce que ces personnes, en fait, il n'y a pas de doute pour elles. Pour elles, les extraterrestres vont bientôt revenir sur Terre et il faut qu'ils financent des ambassades pour pouvoir accueillir ces extraterrestres, les Elohim, ils les appellent comme ça. Donc c'est vrai que ça semble tellement évident qu'en étant en vase clos pendant plusieurs jours, n'importe qui pourrait se faire avoir et se dire « mais pourquoi pas en fait ?» Et ça, c'est ça qui est très surprenant. Et tous les membres, en fait, participent de ça.
Vous écrivez dans le texte « Je me sens important, choyé, aimé ». Ils sont vraiment chaleureux avec les nouveaux.
Ben tout à fait. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment une chaleur humaine entre les membres, mais c'est un peu insidieux parce que dans cette université du bonheur, on nous faisait évidemment avoir des cours, des enseignements, et dans ces enseignements-là, c'était là où c'était le plus difficile parce que d'un côté, on avait l'amour au quotidien, c'est-à-dire les gens très sympas, très gentil, très très chaleureux. Et puis à côté, on avait ces enseignements qui étaient très anti-système, le vaccin, pas terrible, et Raël, qui lui, dans les vidéos qu'on nous a passées de lui, qui est extrêmement hostile à la société, qui est contre, évidemment contre le vaccin, mais contre tout en fait, anti tout, le complotisme, il remet en cause des vérités historiques, c'est absolument dangereux. Et le problème, c'est que quand on est dans un état de bonheur, parce que Raël nous dit de ne pas penser. C'est ça, c'est son mantra, de ne pas utiliser son cerveau. Donc imaginez bien que si on pose son cerveau, on peut très vite se faire avoir.
Est-ce que vous étiez familier avec les Raéliens avant de vous engager dans ce reportage-là, Étienne Jacob, en France? Parce que ici au Québec, il a habité ici, Claude Vorion. Là. C'est un Français d'origine, mais son quartier général a longtemps été ici au Québec.
Tout à fait. D'ailleurs, à la suite de mon enquête, j'ai été contacté par des Québécois qui m'ont dit effectivement, il était très actif. Moi, j'étais pas forcément familier de ce mouvement-là. Pour moi, c'était un mouvement qui était en sommeil. Mais ils ont fait reparler d'eux pendant la période du Covid. Donc, je me suis dit, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé ma veille en me disant peut-être qu'ils reviennent, parce qu'effectivement, cette période du Covid, les confinements ont quand même aidé beaucoup à des mouvements à caractère sectaire à se développer à nouveau, à essayer de choper un peu des âmes perdues. Donc c'est vrai qu'ils sont ils sont encore là. Alors les membres, les adeptes sont quand même plutôt jeunes, mais ils arrivent encore à recruter des jeunes. Et il y avait quelques nouveaux avec moi et ils étaient ébahis et vraiment très impliqués. C'était très impressionnant.
Étienne Jacob, vous dites que vous suivez les mouvements sectaires en France. Est-ce que vous voyez des intersections entre les mouvements sectaires comme Raël et d'autres et ce qu'on a pu constater dans les groupes conspirationnistes anti-vax?
Bah écoutez, effectivement, on sent que Raël a vraiment raccroché cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect anti-vax qui était quand même très qui est très populaire et qui continue de l'être. L'aspect complotiste également, la conspiration, ça c'est quelque chose qui est effectivement est très fort. En revanche, Raël et un rapport en France du Parlement il y a une vingtaine d'années avait dit qu'il faisait partie des groupes ufologiques, c'est-à-dire que pour eux c'est des extraterrestres, et c'est pas quelque chose qui est en vogue. Je sais pas si vous avez ça au Québec également, mais c'est plutôt dans le domaine du bien-être, dans le domaine de la santé que les sectes sont de plus en plus actives. Eh bien, sachez quand même que les membres, les adeptes de Raël, souvent sont dans ces mouvements-là eux-mêmes. Ils vont se faire soigner par des naturopathes. Ils vont croire au jeûne prolongé. Ils vont avoir tout un tas de croyances alternatives. La médecine conventionnelle n'est pas forcément appréciée. Donc c'est vrai que on retrouve un peu une sorte de fourre-tout idéologique qui est cher au mouvement sectaire.
Intéressant et surprenant. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu les mots Raël, Claude, Vorion, supraconscience, etc. Merci. On peut lire vos reportages dans Le Figaro. Merci d'avoir été avec nous, Étienne.
Merci à vous.
Bonne journée. Étienne Jacob, journaliste au Figaro en France. Ça avait été très big dans les années 80, 90 au Québec. Début des années 2000 aussi, puis après ça, M. Vorion a disparu.
Et d'ailleurs, sa soucoupe volante, c'est pas des blagues, là, qui était dans les Laurentides, était à vendre jusqu'à l'année dernière, pour vrai, là, sur eBay. Je sais pas si ça s'est vendu, mais t'aurais pu mettre ça dans ta cour, là, ou Catherine aussi, à la place de ton meuf. Donc, au Québec, il y a eu un petit ralentissement. Quand t'es rendu à vendre tes soucoupes volantes...
À marche sur l'hydrogène?
Non, c'était une réplique faite en carton. Là,
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.